Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. 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 Différence.
Radio & Co.
Nous sommes toujours au colloque handicap de 1030 à Diagora et Marie Segala vient de nous rejoindre à notre micro. Vous êtes directrice de la plateforme Nemo et surtout, quoi, aujourd'hui nous allons plus particulièrement parler de la maison d'accueil spécialisée, la MAS Les Amis de Montreuil, un tout nouveau lieu de vie pour des jeunes adultes avec des troubles du langage et des déficiences associées, c'est bien cela ?
Oui, tout à fait.
Mais bonjour à vous, tout d'abord, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos auditrices et à nos auditeurs ?
Alors, je suis Marie Segala, comme vous l'avez souligné, je suis directrice d'une plateforme de service, Mémo. Mémo, ça a une histoire, hein. C'est pour des personnes qui ont des troubles complexes du langage et qui ne peuvent pas s'exprimer oralement. Donc du coup, Mémo, c'est les mots qu'ils ne peuvent pas utiliser verbalement. Ça fait 25 ans que je suis, enfin 20 ans plutôt, que je suis directrice dans des établissements médico-sociaux. J'ai travaillé une dizaine d'années dans une maison d'accueil spécialisée. Ensuite, je suis partie au Québec vivre d'autres expériences et puis je suis revenue en France où j'ai été responsable d'une maison des répits, responsable d'un pôle de petite enfance en France et aujourd'hui où je travaille pour l'association Le Gapas pour cette plateforme de service.
Alors, vu qu'elle a été mise en lumière aujourd'hui, nous allons parler un peu plus, si vous voulez bien, de la maison des Amis de Montreuil qui vient d'ouvrir ses portes en mai, je crois.
Exactement. En fait, on a ouvert un accueil de jour en 2021, en novembre 2021, qui s'est transformé en habitat communautaire et qui a ouvert en mai 2024.
Alors justement, cet habitat communautaire ou partagé, vous avez même parlé de colocation ce matin.
Oui.
Concrètement, comment cela se passe au quotidien ?
Alors, c'est une maison qui, architecturellement, a 6 chambres et 2 studios. Donc, au total, il y a 8 colocataires qui y vivent. Elle est très indépendante du lieu administratif où peuvent travailler des professionnels, où moi, je travaille. Donc, il y a c'est vraiment une maison qui est dans le quartier de Montreuil, dans un quartier très résidentiel. C'est une maison qu'on a achetée, qui n'a pas été construite par nos soins, qu'on a réhabilitée en fonction des besoins des personnes qui y vivent. Par exemple, elles ont toutes des troubles neurovisuels, donc on a retravaillé pour qu'il n'y ait aucune marche. On a retravaillé aussi l'accessibilité au niveau de l'étage. On a retravaillé les espaces. Cette maison, elle a été choisie et voulue par les personnes et les futurs habitants. Et notamment, un des premiers critères lorsqu'on a recherché cette maison, pour eux, le plus important, c'était d'avoir un extérieur. Il faut savoir qu'à Paris, on n'est pas comme à Toulouse, vous voyez, avoir un extérieur, c'est très rare. Et leur priorité, c'était d'avoir un jardin. Ils voulaient pouvoir aller en extérieur. Et donc, du coup, dans nos critères de recherche, le jardin était une priorité. Et ensuite, après, c'était d'avoir une maison qui pouvait accueillir 8 chambres. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est orienté vers Montreuil.
Justement, puisqu'on parle de l'aménagement, je vais donner la parole à Raouf.
D'accord.
De quelle manière les résidents ont-ils participé à l'aménagement des lieux, à la mise en œuvre du projet ?
Alors, la maison, elle a ouvert en mai 2024 et on l'a achetée en décembre 2023. Donc, il s'est passé quand même pas mal de temps. Ouais. On a ouvert un accueil de jour en novembre 2021 et déjà on a commencé à travailler avec les personnes, les futurs habitants, avec leurs familles sur les critères de recherche, dans quoi ils voulaient vivre comme habitat. Ensuite, après, on a cherché, donc visité plusieurs maisons où ils ont pu, chaque habitant, pouvoir affiner aussi les critères de choix. Qu'est-ce qui était le plus important pour nous ? Parce qu'on ne peut pas, des fois, tout avoir. Certains, pour eux, c'était d'avoir une chambre indépendante. Pour d'autres, comme je disais, c'était le jardin. Donc, on a affiné nos critères. Ensuite, après, on a rédigé un cahier des charges pour trouver un architecte. afin de pouvoir faire les travaux de réhabilitation. Donc, pour ça, l'architecte, on l'a choisi parce qu'il était en capacité de pouvoir nous proposer une maquette qui était comme une énorme maison de poupée, qui permettait aux personnes, aux futurs habitants, de pouvoir se projeter et pouvoir dire ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ne voulaient pas en termes d'aménagement. Ensuite, on a également travaillé sur les choix du mobilier. Donc, chacun a pu choisir, sur une présélection définie, leur mobilier de chambre, le mobilier du salon, de la cuisine. Et ensuite, après, on a aménagé en mai 2024. Est-ce que j'ai répondu à ta question ?
Ouais.
Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, lors de votre présentation, vous êtes allé au Québec. Oui. Est-ce que cette idée, justement, d'habitat partagé avec des personnes porteuses de handicap est venue de là ?
Non, pas du tout.
Non.
Non. En fait, c'était vraiment dans le projet initial, c'est-à-dire que la Maison des Amis, elle est portée par une association de familles et une association gestionnaire d'établissement. Et lorsqu'ils ont répondu à un appel à projet pour créer cet habitat, c'était déjà initialement prévu, qui est cette Maison des Amis. Par contre, ce qui a différé, c'est la manière dont les habitants ont été sollicités pour déterminer leur choix d'habitat, qu'est-ce qu'ils souhaitaient, l'aménagement. Ça n'était pas écrit. Mais non, le Québec ne m'a pas amené à porter sur cette création.
Chaque résident a son rôle. Alors, est-ce que ce mode de fonctionnement les responsabilise davantage ?
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Chaque résident a son rôle. Expliquez-moi.
Avec ce que vous leur donnez, ce que vous leur donnez à faire, je ne sais pas.
D'accord. Alors, chaque habitant a un emploi du temps structuré, visuel, dont il a besoin, dont c'est nécessaire pour qu'il puisse se repérer dans le temps. Et en effet, comme je l'ai abordé ce matin, pour nous, il était important que l'emploi du temps ne soit pas fait que de loisirs. Hein, aujourd'hui, vous travaillez, les emplois du temps de chacun, le mien, j'ai des activités de loisirs, mais ce n'est pas ce qui est constitutif de toute ma semaine. Donc en effet, lorsqu'on vit dans une maison, il faut faire le ménage, il faut pouvoir faire son linge, il faut faire son repas. Donc ça, c'est en effet, c'est des activités aujourd'hui, plein et entier, qu'ils ont d'intégrer dans leur emploi du temps. Il faut sortir les poubelles, il faut tondre la pelouse. Voilà, comme tout le monde en fait.
Oui, oui. Hein.
Et puis ensuite, après, ils ont une activité professionnelle aussi, qui n'est pas forcément rémunérée, mais qui peuvent exercer à travers des activités de bénévoles, de père aidance, en vue peut-être demain de pouvoir exercer une activité professionnelle. Donc ça, c'est ce qui fait leur emploi du temps aujourd'hui dans la semaine. En plus, après, des activités sportives, culturelles.
Et comment se passent les relations entre les résidents et les habitants de Montreuil ?
D'accord. Alors, c'est vrai que le fait qu'on puisse habiter dans une maison qui est au cœur de la cité, vraiment dans un quartier résidentiel, ça nous permet de développer des relations avec le voisinage. Le fait de pouvoir aussi intégrer des associations de quartier, de pouvoir faire des activités que nous proposent les associations, ça nous permet de développer des relations avec les voisins. Comment ça se passe ? Pour l'instant, ça fait que 4 mois. Je dirais qu'ils sont de plus en plus aujourd'hui repérés. Ils retrouvent des personnes qui promènent leur chien tous les matins. Donc, au départ, on se regardait. Et puis maintenant, on se dit bonjour. Donc, je pense que petit à petit, ils vont tisser des liens avec le voisinage. Je n'ai pas de doute.
Oui.
Vous avez souvent d'autres demandes, justement, pour avoir la possibilité d'intégrer d'autres personnes malvoyante ou est-ce que vous avez peut-être le projet de faire d'autres constructions pour accueillir encore plus de personnes ?
Alors, la particularité de la Maison des Amis, c'est que c'est un lieu de transition.
D'accord.
C'est pas un lieu où ils auront vocation à habiter tout au long de leur vie. C'est un lieu où ils essayent en fait à la vie en colocation au sein de la cité. Le projet de l'après-maison des amis, c'est de pouvoir en effet développer d'autres solutions d'habitat en fonction de ce que eux souhaiteront.
Est-ce que certains pourront aller vers l'autonomie, par exemple, ou...
Exactement. Ça veut dire que certains vont pouvoir aller sur des habitats dits partagés, soit autonomes, soit en colocation. Peut-être d'autres feront le choix d'établissements plus classiques. Ou peut-être il y a d'autres alternatives qu'on va devoir développer. Mais là, vraiment, l'idée, c'est qu'ils s'essayent à la vie, voyez, en dehors de ses parents, de leur vie de domicile, puisque la plupart venaient du domicile.
Et dans cette maison, ils sont en autogestion ou il y a malgré tout des éducateurs ou d'autres personnels en permanence avec eux? Comment ça se passe en fait?
Non, là vraiment on est sous un format classique dit de masse hors les murs. Ça signifie qu'il y a un accompagnement 24 heures sur 24. Donc il y a un aide-soignant de nuit, il y a des professionnels éducatifs tout au long de la journée qui sont présents pour les soutenir en tout cas dans leur parcours.
Ils sont encouragés à faire les choses eux-mêmes, mais avec l'aide dont ils ont besoin quand même.
Exactement. En fait, dans la posture des professionnels, on leur demande de ne jamais faire à la place des personnes, de toujours leur laisser commencer à faire et ensuite après, de pouvoir voir où il y a les besoins en soutien. On ne prédispose pas à l'avance des besoins qu'ils peuvent avoir.
Mais les critères qui les amènent à ce type d'établissement, c'est une assistance sociale qui les aide à aller dans ce genre de cet établissement. Je ne sais pas comment ça.
Non, en fait, on a une équipe relais handicap rare Île-de-France, puisque aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont un handicap rare qui s'appelle le trouble complexe du langage. Aujourd'hui, c'est cette équipe relais avec la MDPH qui notifie l'orientation vers la maison des amis.
Les troubles du langage, est-ce que c'est associé à quel type d'handicap
c'est... En fait, c'est un trouble neurodéveloppemental du langage. C'est leur principal handicap. Ça veut dire qu'ils ils ont un retard massif dans l'expression orale et également dans la réception de l'information. Pour la plupart, ils ne vont pas parler oralement. Ils vont utiliser la langue des signes française, la tablette... Ah. Les pictogrammes, voilà, ça, ils ont besoin de soutien.
Est-ce que certains utilisent la petite tablette, là, comme Raouf là,
Alors, pas la tablette, mais on a l'ordinateur avec le logiciel Clicker, pour lequel, en effet, certains utilisent cette même modalité. Pas avec les mêmes pictogrammes, c'est des pictos d'Aviel, mais en tout cas, je suis sûre que vous pourriez très bien vous comprendre avec certains qui utilisent...
Je me posais la question, le neurovisuel, donc c'est...
Oui, le trouble neurovisuel, ça c'est des troubles associés à leur trouble complexe du langage.
Ah, donc ils peuvent avoir des troubles visuels en plus.
Des troubles neurovisuels, oui, ça veut dire qu'ils ne sont pas déficients visuels, mais ça veut dire que pareil, la réception de l'information qu'ils peuvent voir à travers la vue est différente et troublée.
C'est pour ça que ce matin, vous expliquez que vous avez utilisé des maquettes pour leur montrer le futur lieu.
Oui, ça nous a beaucoup aidé. Enfin, ça les a beaucoup aidés, mais moi aussi, parce que j'ai un gros déficit à ce niveau-là. Et donc, du coup, ça les a beaucoup aidés à se projeter dans la maison. Notamment, il y avait la maquette, mais il y avait aussi des petits personnages qui les représentaient, qu'ils avaient décidé. Et donc, du coup, qui leur permettaient d'évoluer, d'avoir pu choisir le lieu de leur chambre et de pouvoir vraiment travailler sur cette projection.
Et petite question chère à Sébastien, est-ce que certains d'entre eux ont vocation à s'orienter vers le monde du travail?
Oui, alors ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous et pour eux. Alors comme je disais, pour nous il y a des préalables parce qu'aujourd'hui tous partaient du principe qu'ils ne pouvaient pas accéder au travail, que le travail c'était pas pour eux. Et donc on a pu travailler avec eux sur quelles étaient leurs compétences à valoriser, qu'est-ce que eux souhaitaient faire. Souvent ce qui revenait c'est l'envie de pouvoir aider les autres. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé par le bénévolat. Donc par exemple, il y en a un, il a été pendant un an bénévole dans une ferme pédagogique. Tous les jours, une fois par semaine, il allait nourrir les animaux, nettoyer leur espace. Pour d'autres, c'était des activités un peu plus ponctuelles. Mais en tout cas, c'était un préalable. Il y a également certains qui font de la père aidance. Alors ça, c'est extrêmement important aussi pour nous et pour eux, parce qu'ils ont justement en compétence la langue des signes. Hein, ils s'expriment en langue des signes. Et donc, du coup, ils interviennent dans d'autres établissements pour justement apprendre la langue des signes à leurs camarades. Donc ça, pour nous, c'est des prémices et des préambules, en fait, au travail de demain. Donc, en tout cas, certains aujourd'hui développent l'envie de pouvoir accéder au travail. Et donc, on va se faire notamment aider par l'association Affûté, peut-être que vous connaissez.
Non.
Voilà. Qui aujourd'hui propose et de la formation professionnelle, qualifiante, et également des entreprises qui permettent de pouvoir avoir accès à des emplois adaptés.
Justement, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui sont demandeuses d'avoir dans leur locaux des employés en situation de handicap, ou c'est surtout vous qui allez les chercher ?
Ah, c'est nous qui allons les chercher. Je pense que aujourd'hui, quand on parle d'accéder aux droits communs, d'accéder à l'ensemble des services de la cité, c'est aujourd'hui à nous de pouvoir démontrer que la place des personnes en situation de handicap, elle est là, elle est au même titre que vous et moi, en fait. Et donc, du coup, il faut en effet qu'on fasse ces démarches. Souvent la première question qu'on a, c'est: mais moi je veux bien, mais je sais pas de quoi il a besoin, qu'est-ce que je peux faire. Nous, on dit souvent, ben, laissez-les, et puis ensuite, après, vous verrez avec nous quelles sont les questions que vous pourrez avoir. Ce qui nous aide beaucoup, c'est les duos D. Je sais pas si vous connaissez les duos D.
Bien sûr, oui.
Oui, voilà. Par exemple, cette année, on a les services de la mairie de Montreuil qui ont proposé certains duos. Donc nous, il y a eu 3 duos qui ont été faits. Un magasinier, un autre à l'accueil de centre santé et une autre couturière. Et en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte que, bah oui, c'était les personnes en situation de handicap pouvaient occuper ce genre d'activité professionnelle. Et donc, peut-être que ça va déboucher sur des stages un peu plus longs, en tout cas, on l'espère.
C'est plus avoir une suite. Ouais,
c'est exactement. Et je pense que les duos D, c'est peut-être aujourd'hui ce qui manque, c'est que ça ne soit pas juste une journée, que ça puisse déboucher sur d'autres journées.
Est-ce que ce n'est pas de la part du public valide ? Manque de méconnaissance des personnes en situation de handicap, et comment pouvoir
les sensibiliser
et les employer dans leur travail.
Oui, je pense qu'il y a de la méconnaissance, il y a de la peur aussi. Moi, j'ai fait mon premier stage post-professionnel, post-études, dans un ESAT, et j'étais extrêmement étonnée de la productivité. Voilà, que ce soit en ESAT, en entreprise adaptée, je trouvais qu'il y avait une productivité qui était extrêmement importante, voire certainement plus que dans des usines normales. Et donc, je pense qu'en effet, il y a une méconnaissance. Mais ça, c'est valable pour tout, en fait. C'est à nous et à vous, en tout cas, d'être plus dans la cité, en fait, de ne pas avoir peur, que ce soit d'aller au musée. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, on montre que vous êtes là, que vous existez, que vous avez des besoins qui sont les mêmes que tout à chacun. Et plus vous serez dans la cité, plus nous, en tant que professionnels, on vous accompagnera dans la cité, moins il y aura de peur et peut-être de questionnements sur vos savoir-faire et vos compétences.
Il y a des handicaps qui ne se voient pas, donc des fois,
vous avez raison.
Oui.
Oui, vous avez raison. Il y a les handicaps visibles et les handicaps invisibles.
Oui, voilà. Je sais de quoi je parle. Je l'évoque.
Mais je vais vous raconter une petite anecdote. On a une personne qui, justement, parle la langue des signes et utilise beaucoup de pictogrammes. Et il a eu des difficultés pour partir en vacances, et donc on a mis en place un accompagnement, un soutien, un accompagnement, et il est parti en train, en TGV, sur son lieu de villégiature, avec un professionnel. Et il se trouve qu'ils étaient dans le train à 4, sur un quatuor, on va dire, de place. Et ils ont commencé, justement, le professionnel avec le jeune, à échanger avec, pas une tablette, mais sur papier avec les pictogrammes. Et les deux personnes à côté les ont regardées. Et puis ensuite, après, ont commencé à échanger en disant, qu'est-ce que vous faites, comment... Et il y a eu un échange qui a été fait justement sur comment on communique, et moi, est-ce que je peux apprendre, comment on dit bonjour, comment... Et je pense que c'est ça en fait. Plus on sera avec les personnes, là où elles se situent, dans tout le service de droit commun, ben moins il y aura une curiosité sur l'utilisation d'une tablette, par exemple.
Ok, on va peut-être. Tu avais une autre question, Christian?
Moi, je pensais conclure éventuellement. Alors,
moi, j'avais une question quand même. Je voulais faire un tout petit retour en arrière. C'est vrai qu'on parle pas mal et c'est un sujet pour moi important de la vie affective des personnes. Et je voulais savoir comment vous, au sein de cet habitat partagé, vous aviez pensé à un moment donné que les personnes puissent vivre en couple.
En fait, depuis l'ouverture, même en mode accueil de jour, on a compris qu'on n'allait pas trouver dans le milieu ordinaire de droit commun le soutien pour les accompagner dans la vie affective, relationnelle et sexuelle à travers toutes les questions. Donc on a commencé à trouver des tierces personnes, ça a été le CRIPS. Aujourd'hui, on a une professionnelle extérieure qui vient soutenir toutes ces questions-là. Donc ça, c'est quelque chose depuis 3 ans qu'on mène. Après, concernant la maison, je dirais que c'est toujours pareil. Ils se demandent s'ils sont autorisés à, en fait, et voire même nous interrogent dessus. Donc c'est à nous de pouvoir leur dire que c'est chez eux, en fait. Si demain, dans leur chambre, il y a un colocataire qui a envie d'aller passer la nuit, nous, on va s'assurer du consentement. Voilà, ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, parce que c'est la base. Mais après, on n'a pas notre mot à dire, en fait.
Et justement, je me demandais tout à l'heure, alors que ça soit pour de la vie intime ou même de la vie amicale, est-ce que la maison est ouverte? Parce que vous disiez que les jeunes allaient vers les associations. Est-ce qu'ils sont libres d'inviter qui veulent aussi à venir passer un moment dans la maison et...
Absolument. En fait, nous, on ne décide pas de qui vient à la maison. Est-ce qu'ils doivent prévenir avant ou pas? C'est aux jeunes de décider. Pour exemple, une des premières actions qu'on a faites en termes de travail, c'est de les amener à répondre à l'interphone, afin que ce ne soit pas le professionnel qui puisse aller ouvrir la porte et décider si oui ou non la personne allait rentrer.
Comme si c'était colocataire, voilà. Qui va,
ouais. C'est eux. Par contre, ensuite, après, est venue la question de entre eux et qu'on soutient, c'est si je reçois mon papa, mon frère ou un copain, où je le reçois? Est-ce que je peux le recevoir dans les parties communes? Est-ce que je le reçois dans ma chambre? Et ça, c'est en fait, c'est entre eux qui doivent le décider.
Il ne faut pas que ça dérange ou perturbe les autres résidents. Quoi.
Mais ça, c'est à eux de décider, vous voyez. C'est pas là aujourd'hui, c'est pas à moi. Voilà, en tout cas, la porte, elle est ouverte et c'est ni les professionnels ni la directrice qui décident qui peut y rentrer. Ce sont les habitants.
Oui, donc il y a une très bonne entente entre les habitants et les professionnels aussi. Et ça, c'est très important. Au sein de l'association, quoi.
Oui, ce qui a été important pour nous, c'est que ce sont des colocataires qui ne se sont pas choisis. Mmh. Hein, contrairement à un habitat partagé où la première possibilité, c'est de pouvoir se choisir. Là, aujourd'hui, ils sont tous ensemble. Donc, ce qu'on voit, c'est la manière dont ils peuvent tisser des liens entre eux, pouvoir aussi se dire les choses, et ça s'apprend. Hein, tu me déranges, j'ai pas envie que tu sois là, ou ce que tu fais. Donc ça, aujourd'hui, c'est des habiletés sociales sur lesquelles on doit pouvoir les accompagner. Pareil, s'autoriser à pouvoir dire j'avais pas forcément envie au petit-déj d'avoir ton papa qui est avec nous. Et ça, c'est des questions qu'il faut qu'on les amène à pouvoir échanger. Mais en aucun cas, en termes de professionnel, nous, on a notre mot à dire là-dessus.
J'aimerais pas le dire, moi.
Mais quelque part, ta remarque, elle est intéressante parce que la posture professionnelle, j'imagine, doit être travaillée aussi parce qu'il faut vraiment que les professionnels aient en tête qu'ils sont chez les personnes.
Oui, tout à fait. Oui.
Tu vois. Et ça, c'est une posture qui est complètement différente de celle que l'on retrouve ordinairement, j'ai envie de dire, en institution.
Oui, voilà, oui.
Et Marie Segala, merci d'être venue à notre micro. Je trouve que ce concept est très intéressant. Alors, est-ce que vous pensez que, puisqu'on parle aujourd'hui de l'avenir du médico-social, ici, 2030 et au-delà, que ce concept d'habitat partagé, est-ce qu'il serait, selon vous, reproductible? Et vous, qui êtes de l'origine de l'Aveyron, est-ce que vous serez prête à venir accompagner des structures qui souhaiteraient le mettre en place quelque part en Occitanie?
Alors, à la dernière question, c'est vrai que je suis aveyronnaise. Aujourd'hui, je suis quand même très attachée à l'association Le Gapas pour laquelle je travaille, mais je sais que Le Gapas serait ravi de pouvoir venir en Occitanie et pouvoir en effet, en tout cas, amener son savoir-faire qui, je pense, est intéressant. Notamment, il y a une des valeurs qui nous accompagne qui s'appelle l'utopie nécessaire. Donc ça, pour nous, c'est la manière dont on pense les projets et la valeur qui nous guide. Et également le droit à l'essai-erreur dans notre manière d'accompagner les personnes. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, la Maison des Amis, elle est reproductible, avec certainement l'expérience et les retours d'expérience qu'on va pouvoir avoir, voire même améliorer. Écoutez, je serais ravie de revenir en Occitanie, bien sûr.
Et merci avec vous, merci à vous, pardon. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir boire un café à Café & Co.
Eh bien, je ne manquerai pas parce que ça m'intéresse beaucoup.
Radio
merci
Co.
beaucoup de votre invitation.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence. Différence.
Radio & Co.